La fois passée, on devait parler de la relation entre la musique, entre l'industrie musicale et la musique congolaise, mais les invités qui avaient prévu la fois passée ne sont jamais venus. Et pour ce vendredi, on a changé d'invité. Et qui sont bien là, bien présents. Elle n'est plus à présenter, elle, c'est Mamou International, Paulette Jacobs. Quand on entend parler émission Sankai, on pense directement à Mamou International. Lui, il est observateur, il est analyste sur le plan politique, économique, voire même social. Mais il s'y connaît aussi sur le plan culturel. Gérard Nzali est avec nous. Et de temps en temps, il gratte aussi. Hein. Ça, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Mamou International, bonsoir. Mamou International, bonsoir.
Bonsoir à tous, bonsoir Papa Jules.
Gérard Nzali Liongo, bonsoir.
Bonsoir pour vous. Bonsoir à tout le monde.
D'abord, la première de question pour parler de la relation entre l'industrie musicale et la musique congolaise. Est-ce que, au niveau du Congo d'abord, est-ce qu'il y a une industrie musicale? Je commence par Mamou International, sinon ce ne sera pas la galanterie.
Hein? Ben, bien sûr, pour moi il y a une industrie musicale, mais maintenant comment est-ce qu'elle fonctionne? Elle a quand même une façon particulière de fonctionner et une façon particulière que les musiciens se sont amusés à mettre en place pour fonctionner. Et on voit que les musiciens d'aujourd'hui aussi, lorsqu'on devient chanteur aujourd'hui, on adopte d'office cette mauvaise façon de gérer l'industrie musicale.
Gérard, est-ce qu'il y a une industrie musicale au Congo?
Disons qu'il y a une industrie qui existe, s'il faut l'appeler ainsi, mais qui a un problème de structure et d'animation, on va dire, parce qu'il semble qu'il n'y ait pas vraiment un beau ménage entre finalement cette effervescence musicale que nous avons et les génies que nous avons et aussi la vie que mènent finalement ces personnes qui ne parviennent pas à capter cette valeur ajoutée de leur propre musique.
Oui, il y a quelqu'un qui observe la musique congolaise, lui il m'a dit non, la musique, l'industrie musicale existait dans les temps, mais pour lui il trouve que ça n'existe plus. Je lui ai posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Il dit, mais quand on parle de l'industrie musicale, il voit d'abord l'artiste qui fait son œuvre, cette œuvre qui va dans un studio d'enregistrement, après il y a un produit qu'on appelle le master, après le master c'est édité, après l'édition ça arrive au niveau de la distribution, après la distribution ça arrive au niveau du consommateur, et voilà, mais il dit qu'aujourd'hui, il n'y a plus tout ça.
Ah si, il y a tout ça. Pour que ça arrive dans les mains du consommateur, il y a toujours ce schéma-là. Mais quand on dit que ça existait, mais ça existait sous la même forme, hein. Faut pas croire, hein. On a vu Franco qui mandait aussi de l'argent, hein. Faut pas croire, on a vu Taboulet qui mandait aussi. Donc c'est pour ça que je dis que ça fonctionne, parce qu'il faut pas penser que eux vivaient mieux de leur de la musique, c'est faux, hein.
Je ne parle pas de vécu du musicien par rapport.
Je parle vraiment de voilà. Donc l'industrie fait que voilà le produit avance et que ce produit rapporte et aux producteurs et rapporte à toute la chaîne. Il faut savoir que ça a toujours fonctionné d'une façon assez particulière concernant le Congo.
Je vois que Ramsès n'est pas d'accord avec toi.
Mais je vais, tout à l'heure, je vais.
C'est toi parce que Gérard, on se connaît, Mamou, on se connaît. Bon, Ramsès, c'est difficile. Ouais. Ramsès, tu n'es pas d'accord avec Mamou.
Non, en fait, en ce qui me concerne, je reste stricto sensu sur les définitions. La production musicale, elle existe. Par la production musicale, les artistes produisent. Mais quand on prend vraiment le mot, le terme industrie musicale, c'est comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, par rapport à l'artiste, par rapport aux usines, par rapport aux studios d'enregistrement, par rapport à toutes ces chaînes-là. Maintenant, ce n'est plus comme à l'époque. Il y avait des grandes maisons de presse, de pressage de disques qui existaient.
Mazadis
et des tas d'autres qui existaient. Maintenant, un artiste, on en a vu d'autres, je ne vais pas les citer, qui font qu'il y a quelques studios d'enregistrement à qui, je dis bien quelques studios d'enregistrement qui sont dans des endroits un peu particuliers où les musiciens enregistrent, ils envoient le master quelque part en Europe. Ça, c'est le cas d'un album que j'ai suivi. Le master est arrivé, puis on l'a envoyé dans un pays de l'Est. Cela est sorti, et puis c'est rentré sur Kinshasa. Pourquoi cela a été fait ainsi? Parce qu'il n'y a pas d'industrie comme telle pour pouvoir sortir tout ce que cet artiste voulait sortir. Moi, je suis pas très spécialiste en musique, comme vous le savez, mais je reste sur les termes exacts d'une production musicale, oui, mais d'une industrie musicale, je laisse le spécialiste le soin de le faire, parce qu'il est facile. Moi, aujourd'hui, je peux demain faire un enregistrement, parce que c'est plus facile d'enregistrer maintenant et ça va sortir.
À l'époque, on avait le vinyle, hein. Mais je pense que tout s'est arrêté aussi au moment où on est passé au CD. Donc il n'y a pas eu une continuité par rapport à ça. Donc il y a eu le vinyle, comme je le disais, mais la façon, encore une fois, la chaîne reste la même. Mais maintenant, pourquoi est-ce que on vient ici pour presser les CD et tout? C'est tout simplement parce que ça revient moins cher et on le sait tous, ça peut revenir presque à...
C'est seulement à l'époque du CD que ça s'est cassé.
Je pense que pour moi c'est presque à ce moment-là. Pourquoi? Parce que ils avaient quand même les machines pour presser les vinyles. Donc ça ne manquait pas. Mais est-ce qu'ils ont renouvelé justement la grosse artillerie pour pouvoir passer au CD et avoir la vision aussi? Parce que c'est bien beau d'avoir des industries, mais si on n'a aucune vision sur cette industrie et qu'on a juste les machines et qu'on n'en fait pas grand-chose, ça vaut pas la peine non plus.
Parce que quand on a parlé avec la personne, je sais pas si Gérard aussi, je sais pas, bon, parce que lui aussi
il gratte. La personne n'a pas de nom,
malheureusement. Il y avait un moment donné, le Zaïre de l'époque produisait les 45 tours, produisait les 33 tours qui étaient à la mode à l'époque. Mais il exportait ça, il vendait ça à des pays d'Afrique, à des pays limitrophes. Mm-hmm. Mais il a dit, il y a eu comme si, à un moment donné, les musiciens congolais sont venus enregistrer ici et qu'ils ont commencé à presser. C'était avec le 33 tours qu'ils ont commencé cette cassure de l'industrie congolaise. Je ne sais pas si lui, il est dans les vrais, Gérard.
En fait, je crois qu'il y a plusieurs époques comme ça. Il y a une époque... beaucoup plus ancienne où, finalement, grâce finalement aussi à l'initiative de certaines personnes d'origine un peu grecque et juive, ils avaient...
Un peu grec.
Ils avaient...
juste un peu.
Ils avaient créé des usines d'enregistrement. C'est ainsi que nous avons les vieilles chansons que nous connaissons, que nous fredonnons jusqu'à aujourd'hui. Et finalement, après un certain moment, ça a été repris par quelques Congolais, notamment avec Mazadis, son Vincent de Franco, et puis aussi Vertis. Mais je pense que, étant donné qu'il y a eu un problème de crise et de gestion, je dois dire, donc toutes ces sociétés sont tombées en faillite. Donc je crois que c'était un problème ou de gestion. Et puis il y avait aussi un autre problème, c'est que au niveau de la qualité même, parce qu'il y a certains sons qui pouvaient être que faits en traversant par exemple à Brazzaville, où là on avait pu faire des investissements de taille.
Avec l'histoire de 24 studios.
24
pistes, pardon.
Voilà. Et alors donc pendant cette cassure là, qu'est-ce qui est venu se mettre en place? Ce sont des personnes, des particuliers qui se sont mis dans ce secteur avec tout ce qui peut arriver comme déficience en termes techniques, et ainsi de suite. Ce qui fait que, et puis par ailleurs, le musicien ne se retrouveront pas finalement par ces gens-là qui eux-mêmes étaient en train aussi de se débattre au niveau de la qualité de la formation personnelle et au niveau même aussi des instruments ou des appareillages, parce que de temps en temps, comme le disait Ramsès tout à l'heure, il y a parfois des studios d'enregistrement qui se font dans des maisons d'habitation, donc l'acoustique n'est pas bonne, et quand quelqu'un tient absolument pouvoir avoir une œuvre de qualité, il préfère alors faire en sorte de pouvoir envoyer notamment ces enregistrements ici en Europe où il peut espérer pouvoir avoir une meilleure qualité. Donc c'est cette cassure-là qui fait que aujourd'hui, manifestement, il y a comme un problème, et puis il y a une concentration au niveau de la ville de Kinshasa ou des grandes villes, surtout de la ville de Kinshasa. Donc finalement, toute cette masse des musiciens qui se trouvent à l'intérieur, où il y a une diversité culturelle d'une richesse inestimable, qui ne peuvent pas, comment dirais-je, pouvoir jouir de cette infrastructure. Donc on se trouve là donc devant une situation dans laquelle donc c'est une industrie qui est en train de naître, qui essaie de vivre, mais entre-temps aussi qui ne trouve pas non plus tous les soutiens possibles au niveau des pouvoirs publics. On va me dire, mais est-ce qu'il faut toujours attendre du pouvoir public? Mais bon, voilà un peu.
Je ne sais pas si moi quelque chose à ajouter, mais il y a certains qui disent que nos artistes, musiciens, nos chanteurs, eux, ne percevaient pas leurs œuvres comme des produits. C'était plus un loisir, un passe-temps.
Et qu'on leur a fait croire. Hein. C'est ce qu'on leur a fait croire.
Et qui leur a fait croire?
Mais justement, le grec qui avait lancé,
ils étaient payés, on dit.
Tout à l'heure, ils avaient des salaires de misère, ils recevaient plutôt des biens, un vélo, une mobilette quand
un
stylo à billes. C'est ce qu'on leur a laissé croire. C'est vrai que nous sommes artistes dans l'âme et que bon, à la base, c'est vrai qu'on a toujours aimé chanter et tout, mais que, on nous dit que voilà, si tu chantes, tu vas te faire du pognon, tu vas devenir riche et tout. Ça, on s'est gardé de le dire. Donc, ces maisons de disques, à la base, c'est vrai qu'ils se sont mis plein les poches en oubliant de faire tout ça. Et c'est à cause de ces maisons de disques que les maisons de disques suivantes ont marché de la même façon. Parce que ce type était déjà un voyou, et bien tous les autres qui sont venus derrière ont fonctionné comme ce voyou-là et ont continué à ignorer en tout cas le travail de l'artiste.
Et Francis ?
Non, je ne fais qu'écouter religieusement les spécialistes de la musique, j'apprends, merci.
Gérard, par rapport à ce que vient de dire Paulette Jacobs.
Nous sommes tout à fait à l'unisson ici, manifestement. Donc chacun lui apporte une petite nuance, mais bon, c'est tellement vrai. Et puis, par ailleurs, étant donné que quand nous sommes dans une situation où il y a un gisement quelque part, ben il vient aussi entrer d'autres personnes qui sentent qu'il y a comment dire une range de situations à prendre là. Donc c'est notamment le cas de certains de nos amis africains qui sont arrivés, les Camerounais, les gens comme les studios Ndiaye et tout, qui sont arrivés sur place pour pouvoir recueillir un peu cette valeur ajoutée. Et comme le disait bien mon ami ici, donc étant donné que la valeur même de la chanson, donc comme elle a été réduite, comme on dirait, à juste un plaisir, donc elle sortait comme un produit juste culturel. Donc, alors qu'est-ce qui se passe? Donc le temps qu'il puisse prendre une valeur marchande, donc toute la valeur ajoutée est prise par des personnes qui sont absolument en dehors du système. Donc, le produit sort comme un produit culturel, il rentre comme un produit importé, taxé comme c'est pas possible. Qui gagne dans tout cela? Même pas l'État, encore moins le musicien. Donc, voilà un peu dans la situation dans laquelle on se trouve, pour laquelle il faudra mettre un peu d'ordre, parce que...
Et quand est-ce que le musicien a commencé, je ne sais pas si vous pouvez dater, quand est-ce que le musicien a commencé à vivre un peu de son produit, ou bien pas du tout?
Le musicien a commencé à fonctionner, enfin, d'après ce que moi j'ai constaté, quand on regarde même le travail que Roger Izéhide a pu faire à l'époque, Roger Izéhide n'a jamais mis à contribution tout l'orchestre, il faut le savoir aussi. Il marchait tout seul entouré du monde et tout, mais c'est lui qui profitait, évidemment, quand les contrats tombaient, c'est lui qui prenait l'argent, quand il fallait que les disques sortent, il prenait l'argent, quand il fallait voyager, il a voyagé, il est venu ici plusieurs fois, on l'a vu dans des grandes manifestations, parce qu'il faut savoir qu'il aimait bien qu'on le voit dans des soirées organisées par les Blancs et tout ça, donc ça jouait. Donc déjà, à la base, si on revient, enfin c'est quand même un orchestre récent, l'African Jazz, donc on voit quand même qu'un monsieur comme Roger Izéhidi, qui était là pour faire rentrer de l'argent dans l'orchestre et dans les poches des musiciens, il ne l'a pas fait. Un peu plus tard, les musiciens ont commencé à procéder autrement. D'ailleurs, on voit aussi à l'époque Nico Kassanda qui va du côté de la Tanzanie et tout ça pour pouvoir faire vendre ses disques et avoir un peu d'argent. Et ça a marché parce qu'à ce moment-là, lui, à son tour aussi, a mis dans ses poches à lui et pas dans les poches de l'orchestre et ainsi de suite. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Tu as parlé d'enregistrement et puis ils ont commencé à chercher des producteurs dès qu'ils avaient ce master. Et le producteur donnait autant, 50 000 francs, 100 000 francs, il en faisait ce qu'il voulait. Mais le musicien qui avait pris ça, supposons Papa Wemba, leader de Viva la Musica, il prend cet argent. Toi, tu crois qu'il va donner à Lidjo Kwempa ou bien à Fafa de Molokai? Non, il met dans sa poche. Et il demande aux musiciens, est-ce qu'il leur demande? C'est-à-dire que les musiciens doivent à leur tour se débrouiller, d'où l'importance des sponsors ou des femmes qui ont tenu les orchestres. Il y a des musiciens qui sont connus, qui ont été soutenus par ces femmes-là, qui ont été tout le temps là parce qu'elles adoraient la musique. Elles ont soutenu beaucoup d'orchestres et c'est comme ça que les musiciens, certains, pas tous, vivaient. Et ce que je voulais dire, c'est que cette méthode-là, elle existe jusqu'aujourd'hui, malheureusement.
La musique ne faisait pas vivre, c'était beaucoup plus d'argent qui venait en dehors de la musique.
Oui. De ces femmes-là pour les musiciens, oui, mais pas pour le leader qui, lui, une fois qu'il avait vendu son master à 100 000, à 480 000 et tout, lui prenait l'argent, point barre. Les musiciens pouvaient attendre un concert pour avoir de 5 euros, 10 euros de mabanga et des choses comme ça, ou alors d'avoir... les choses ont changé aujourd'hui. Il faut savoir que les maris au manga et tout ça, c'était des femmes des femmes d'affaires qui soutenaient ça. Mais oui, ce sont des femmes d'affaires, je suis désolée. Les affaires peuvent avoir plusieurs couleurs, entre autres cette couleur-là. Oui, voilà, elles ont soutenu le milieu musical et les musiciens. Mais voilà, mais comme je dis, même les fers et les phallies, quand ils se sont lancés dans la musique, ils ont procédé de la même façon. Le master a été vendu à un tel, même Kofi continue. Diego Musique, tiens, je te donne ça, fais-moi sortir ça. Jusque-là, rien n'a changé. C'est pour ça que je dis l'industrie de la musique au Congo est assez particulière. Elle a toujours fonctionné. Et voilà, c'est en fait ce que nous ont laissé les premiers qui ont fait des maisons de disques, qui ont implanté des studios et tout ça. Ce sont les...
Vas-y, on revient encore au problème de la fondation, comme dirait notre...
Oui, tout à l'heure. Mais oui, c'est exactement ça, parce qu'avant ça, comment est-ce qu'on faisait de la musique? On faisait de la musique, en tout cas, je sais qu'en province, quand on était un orchestre, on allait de parcelle en parcelle et on recevait de l'argent comme ça, on passait de parcelle en parcelle, ou alors pour de tout ce qui était moderne, on se produisait dans un café, dans un bar quelconque et on nous donnait de l'argent et on vivait comme ça. Mais la fondation, comme tu dis, elle a été, lorsqu'elle s'est mécanisée, elle a été comme ça et les gens ont fait du copier-coller de cette mauvaise façon de faire jusqu'à nos jours.
Gérard, par rapport à ce que vient de dire Paul Jacobs.
Mais c'est tout à fait vrai. Donc, en fait, le constat qu'on peut faire par rapport à cette industrie, donc qui devrait pouvoir vivre étant donné le potentiel qu'il a, c'est qu'il n'y a pas d'organisation et que finalement, il y a de la débrouillardise. Donc, finalement, les professionnels du métier qui devaient pouvoir se mettre dedans ont soit démissionné ou n'ont plus les moyens pour le faire. Imaginons, même pour un studio, pour faire un studio tout à fait moyen comme ça, donc au niveau de Kinshasa, il faut prévoir quelque chose entre audio, je dis bien, donc 100 000, 150 000, quelque chose comme ça. Donc qui va avoir cet argent pour le faire? Autre chose, pour pouvoir éditer, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il gagne dans cela? Prenons le cas, par exemple, d'un enregistrement de 8 heures de temps. Donc, le musicien arrive, il paye 300 euros ou 400 euros. Mais qui va avoir cet argent pour le faire? Donc, il y a d'abord le pouvoir d'achat, même de ce musicien qui n'est pas là. Et la personne qui veut investir se trouve buté à un problème de seuil de rentabilité. Quand est-ce qu'il va rentabiliser? D'où il va rentrer finalement dans une économie qui n'est pas une économie très, très visible, une économie un peu, on va dire le mot,
informel,
tout à fait, et qui va faire en sorte que les gens ne se retrouvent pas. On reste dans un milieu qui est toujours un milieu où l'artiste reste bohème. Et c'est toujours une façon un peu folklorique d'un peu de gérer cela. D'autre part, il y a une autre forme aussi qui est entrée. C'est un peu tout ce qui est professions religieuses comme ça, qui eux
ont une musique religieuse.
Musique religieuse. Qui ont une structure, mais qui est dévolue pour un public bien donné et pour certaines convictions, on va dire. Donc, qui ne remplit pas nécessairement, comment dirais-je, tout le public, les déshydrates du public qui aussi a envie de s'amuser, de choses pareilles. Donc, il y a là aussi une partie de ces potentialités qui s'envolent. Et alors, il reste encore qui? Ce sont ces personnes privées qui se mettent dans le système avec les studios dont on a parlé. Et par ailleurs, les personnes qui ont compris qu'il fallait absolument être sur tout le cycle de production, de façon à pouvoir minimiser les coûts et venir eux-mêmes sur place avec leurs enregistrements pour pouvoir les éditer sur place et trouver le meilleur producteur ici en Europe. Et il y a encore un autre danger qui se met aussi, c'est tout le piratage et aussi le transfert ou plutôt la mutation vers le numérique qui se fait pas très bien parce que bon. Et par ailleurs, il y a aussi le fait qu'on va aussi vers des pays qui ont maîtrisé une certaine technologie au niveau de l'Asie et de la Chine, mais finalement, quand on va avec, une chanson, il vous revient parfois à des milliers d'exemplaires qui ont été reproduits et qui arrivent parfois beaucoup plus vite que finalement la décision finalement de commercialisation que vous avez envie de faire. Donc là, il se trouve qu'il y a pas mal de petits problèmes comme ça qui font en sorte que, jusqu'à présent, l'artiste n'est pas bien servi. L'économie du pays ne retire pas finalement les dividendes qu'il faut par rapport à cela. Et bon, on se retrouve dans une structure où finalement tous les autres prédateurs externes arrivent et prennent finalement tout le reste. Et notre industrie est toujours en train de se débattre.
On va faire une pause et puis on va revenir à nos invités. 02-732-0450, c'est notre numéro de téléphone.
Sangama, 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 s Congola, à Zobiti Malati, Kola, Nizambe, à Kabela,
souvenir Mansanga. Je sais que lui, il aime bien ça, hein? Jeff Tchamala. Mansanga, une composition de John Olo. Ici, chanté par le grand-père Bozé Bozéna. On va entamer la deuxième partie de notre entretien. Mamou International, Paul Jacobs, est avec nous. Et Gérard Nzali Lyongo. C'est notre numéro de téléphone. Je reviens à Paul Jacobs et à Gérard Nzali. La question que j'aimerais poser pour entamer la deuxième partie, on a vu débarquer nos artistes musiciens ici en Europe. Pourquoi s'il n'y a pas eu cette relation avec l'industrie musicale, maintenant on peut dire internationale? Pourquoi il n'y a pas eu cette interaction? Paulette Jacobs.
Dis donc.
Ah, mais si je disais c'était Gérard, on va me dire non, je ne suis pas galant, donc mais vous. Hein, si tu cèdes à Gérard, tu dis ah, je veux bien que Gérard, ça c'est autre chose.
mais parce qu'ils gardent le même système en fait. Ils restent ensemble, ils gardent le même système. Et si on regarde bien lorsqu'ils sont arrivés, ça dépend du groupe et à quel moment et tout, on a remarqué aussi que pendant certains temps, ça pouvait aller jusqu'à des années, ils ne faisaient rien, ces musiciens. Et après, il s'est passé ce phénomène de Bashé Couleur. Oui, Bashé Couleur. Bato, Bazaïque, Osa, Bashek, Nabadien, Ba et tout. Ils avaient beaucoup d'argent. Et pour Bayebana, Bayemba Bango, ils ont commencé à avoir recours, il y a des musiciens au bâton d'Akinapotor. Et les musiciens, ce qu'ils ont fait, c'est que rebelote, ils sont retombés dans le même système. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il est difficile, très difficile, Gérard est musicien, de parler avec un musicien et de lui faire comprendre que les choses peuvent se passer autrement. Pourquoi ? Parce que lui, il a besoin de son cash rapidement. Toi, tu es en train de lui dire que l'enregistrement va être fait et que son cachet va arriver à tel moment de la chaîne. Il n'est pas d'accord avec ça. Il a besoin de son cash, peu importe le montant, parce qu'il s'est à négocier. Et il est resté dans le même système. Et c'est malheureux à dire. Et ils sont restés dans ce système-là. Et ils sont rentrés, ils sont devenus comme...
Parce que quand on regarde les musiciens de certains pays d'Afrique, ils ont eu, entre guillemets, cette facilité de signer avec les grandes maisons ici. Mais pourquoi est-ce qu'au niveau du Congo, on avait débarqué tout le monde, mais à un moment donné, c'était dans les années 80-90, c'était la musique congolaise qui était jouée partout. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu cette interaction?
Mais ils ne sont pas matures, hein, les musiciens chez nous. Quand je dis pas mature, c'est pas mature dans le sens économique. Hein.
Gérard,
je crois que c'est un problème, on va dire, sociologique, même anthropologique. Je pense que c'est
anthropologique. Ah, Gérard.
Oui, parce que je crois que c'est un peu dans la culture. Hein. Donc, un peu, parfois, c'est ce repli sur soi. Et le fait de ne pas oser aller vers l'autre. Et je crois qu'on reste un peu dans le confort de chez toi, en mangeant un peu de nos mets, et puis en se congratulant, en se tapant les poings, tout pareil. Et on prend goût à ce genre de petites choses. Et parce que pour pouvoir aller vers l'autre, donc il y a un effort à faire. Il faut vraiment, se ramasser pour cela. Et mais bon, c'est triste à dire, mais les amis de l'Afrique, que ce soit de l'Afrique de l'Est, ils sont plus audacieux dans ce genre de choses-là. Ils ont plus d'audace que nous autres. Et pourtant, nous avons aussi le talent, si pas plus qu'eux.
Vas-y.
Parce que, bon, c'est une question très délicate que je viens de poser, parce que j'avais eu l'occasion parfois de discuter avec certains des amis comme ça, parce que prenons le cas, par exemple, on va prendre la Belgique. Je ne sais pas combien de communes il y a ici.
19 communes.
Non, dans toute la Belgique.
Ah, je sais qu'il y a deux ethnies flamandes et...
Facilement 200.
Et wallonnes. Oui. Et maintenant, le reste.
Le budget de ces gens-là au point de vue culturel. Donc, il faut parfois avancer vers... Moi, j'ai vu que dans des communes parfois très lointaines, je voyais des musiciens qui arrivaient des autres pays, qui allaient donner des concerts dans les fêtes du village, et ainsi de suite. Et les gens parviennent à les connaître. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a une éducation à faire. Il faut pouvoir se faire voir. Ne fût-ce que même partir avec un disque, jouer comme ça, vous donner ça dans les grandes surfaces. Et le temps que ça joue, les gens s'habituent à cela. Et c'est ainsi que vous pouvez parfois créer un marché. Mais ce sont des genres de choses qui demandent notamment une certaine imagination, de l'audace. Et aussi, peut-être aussi, des compétences.
Quand on demandait, certains disaient que le problème aussi avec nos musiciens, ils sont plus scéniques.
Par rapport
à attendre qu'il y ait un produit, parce qu'un de nos musiciens, est-ce que tu vas lui dire que, attends, 6 mois, ne joue pas, on attend seulement que ton CD te rapporte de l'argent, est-ce qu'ils sont passés en pourcent? Parce que nos musiciens sont habitués à jouer presque, on dirait presque tous les jours.
Tous les jours, ouais. Oui.
Je ne crois pas que ce soit exclusif.
Non.
Je ne crois pas.
Mais c'est la majorité, parce qu'on voit ça, même on allait au concert des Aïko, il peut jouer dans la semaine 3-4 concerts. Oui. Alors que on a eu le cas avec Papa Wemba, à un moment donné on lui avait dit de ne plus se produire scéniquement et tout, mais il était incapable de tenir, de rester et d'attendre seulement le fruit du produit.
Mais
qu'on
alors,
appelle...
il le faisait pour l'argent ou il le faisait pour qu'on le voie?
Comme d'habitude, pour qu'on le voie. Parce que certains ont commencé à lui dire, non, mais si on ne te voit pas sur la scène, tu vas disparaître, on ne va plus te reconnaître. C'est par rapport à ça.
Pourtant, à cette époque-là, Papa Wemba était en train de faire une percée extraordinaire au niveau international. Et j'imagine que s'il avait continué comme ça, aujourd'hui on parlerait de lui autrement. Donc...
Pourquoi Papa Wemba est défaillant dans cette affaire-là? complètement défaillant dans ce comportement qu'il a eu vis-à-vis de cette carrière qu'il aurait pu avoir, mais alors grandiose. Il n'allait même plus avoir besoin aujourd'hui de faire certaines choses, d'avoir certains comportements. Qui est au devant de la scène internationale, en plus avec des musiciens congolais, Reddy qui l'accompagnait, Sino qui l'accompagnait, plus les musiciens. Donc on ne peut pas dire qu'il était dans un groupe étranger. C'était son groupe à lui. Mais pourquoi il est défaillant dans cette affaire-là? C'est pour te dire juste cette mentalité, cette façon que nous avons de conduire les choses qui n'est pas, ça ne correspond pas. Alors qu'est-ce qui gêne Papa Wemba? Est-ce que ce qui le gêne, c'est de ne pas être devant son milieu congolais, et pourtant ce milieu congolais qui ne lui rapporte pas grand chose, puisqu'on est en train de parler d'argent, d'économie ici. Donc il se retrouve dans cet autre milieu qui lui rapporte du pognon, mais il se sent pas bien. Il veut quand même revenir, mais que lui revienne dans le système ghetto est une chose, mais c'est qu'il entraîne tous les autres qui avaient du coup un cachet. Il les ramène dans ce mauvais système-là où ils sont encore obligés d'avoir des mabanga pour pouvoir... Les mabanga deviennent de plus en plus. Pourquoi? Parce que trois guitaristes, une basse, il faut Bakombo na bango, la batterie, les chanteurs, Soy Boza 10, encore Bissoto Dinga, Toza Kana 10 voix différentes, Totia Kadi chanteur, Batieva Nini na bango, s'il y a un percu, tu imagines? Voilà pourquoi Bakombo a battu les autres. Ça se remplit dans les chansons. Pourquoi? Pour que les musiciens puissent vivre. Donc, quand il y a eu le phénomène du Japon, c'est bien d'aller au Japon. Mais qu'est-ce qu'on retient quand on revient du Japon? On est comment? Si on revient du Japon, on revient des États-Unis, du Canada, et qu'on est toujours à la case départ, posons-nous la question. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne tourne pas? Qu'est-ce qui ne tourne pas dans ce milieu-là et dans l'industrie, comme je te dis, dans l'industrie, dans l'édition, la production, les concerts, il y a quelque chose qui tourne pas rond dans ce système-là. Il y a quelque chose qui va pas.
Et aujourd'hui, est-ce que Internet aussi n'est pas venu casser tout ça aussi?
Notre musique s'est cassée toute seule. Hein. Elle s'est fait harakiri. Il n'y a personne qui l'a aidée. S'il y avait une industrie, une bonne industrie, parce qu'on a de la très bonne musique, si on avait cette industrie-là, ça fonctionnerait. Aujourd'hui, un morceau comme Yamado, moi, je serais curieuse de demander à ce garçon combien il a touché. Hein. Ça lui a rapporté combien?
On lui posera la question un jour.
Mais il faut lui poser la question, parce qu'un morceau comme ça, en Europe ou aux États-Unis, tu ne travailles plus, hein. Born to be alive, le type là, il n'a plus rien connu d'autre à part ça. Hein. Donc, Yamado, qui est connu partout, c'est le cas avec Kofi maintenant, avec Selfie. Que Kofi nous dise combien il a touché, à part ce que son producteur lui a donné.
Il est son propre producteur.
Il est son propre producteur. Donc voilà, donc il a dépensé de l'argent. Donc j'espère que ça va lui rapporter. Donc c'est ça qu'il faut aussi se demander, parce que c'est vrai qu'ici on parle facilement de chiffres. Stromae a fait ça, ça lui a rapporté autant. Nous, on n'est pas là. On est toujours dans Bomonakie. Eh, à Bétine à Japon. Oh, à Bétakine à Moscou. Oh, oui, mais... Oui, à Bétine. Mais encore, ça rapporte quoi? Parce que si ça rapporte, ça devrait rapporter sur toute la chaîne.
Gérard, on arrive à la fin de notre entretien.
Déjà?
Oui, déjà, ça passe vite, hein, Gérard.
Les gens bien se rendent compte, c'est toujours comme ça.
Ah,
ça passe
très
vite.
Hein. Oui. Mais tu as bien choisi tes invités. Hein.
En conclusion,
moi, j'ai quand même un sentiment d'espoir dans tout cela, parce que bon. Dans la jeunesse qui monte, il y a des gens qui ont de l'audace. Et puis, je suis persuadé, je suis convaincu que nous avons un gisement incommensurable, étant donné la diversité culturelle, la diversité.
Oui, dans la jeunesse, il y en a que deux qui montent. Hein.
Ah oui, s'ils peuvent être de tête de pont, c'est déjà ça. Et
oui.
C'est vraiment des personnes qui, comment dirais-je, se donnent la peine de pouvoir aller vers les autres et on parle d'eux. Et ça fait plaisir. Mais à côté de cela, il y a une masse silencieuse qui avance. Et des gens peut-être que l'on ne connaît pas assez parce qu'ils ne sont pas dans le feu de la rampe, on va dire, congolaise. Mais ils se font connaître plutôt...
Parce qu'on voit les cas d'un Lokwa Kanza qui n'est pas dans un circuit, dans notre circuit à nous.
Il y en a un autre encore, mais le nom ne me vient pas, je crois qu'il doit s'appeler Kazette, quelque chose de ce genre, qui se produit partout. Il était dernièrement en Australie, il est partout. Il est partout. Mais on n'entend pas parler de lui. Il est encore, comment dirais-je, il est pris en charge par des personnes externes au pays. Peut-être qu'il va revenir et redonner finalement un peu cet espoir. Il va avoir cet effet de pompe aspirante pour pouvoir mener notamment ce pays vers le mieux.
J'aime l'optimisme de Gérard.
Mais ça me fait penser à Staff Bendabilili. Donc il y a deux petits blancs qui décident que tiens, ça peut nous rapporter de l'argent. Parce que le premier concert de Staff Bendabilili ici au Botanique, quand j'ai parlé avec eux, ils nous avaient rien, on leur a rien donné. Hein. Il faut savoir qu'on les a fait tourner, on les a mis dans des piteux hôtels et on s'est servi d'eux. Ils ont joué à gauche, à droite, mais ils étaient juste contents d'être sur scène. Ça, c'est notre côté, parce qu'on aime la musique, parce qu'on a ça dans le sang. Mais voilà, mais à côté de ça, on devrait alors avoir un homme ou une femme qui s'occupe alors du côté financier, du côté économique, économique de l'affaire.
Tu as fréquenté des milliers, comme l'a dit Gérard, comme toi-même tu l'as dit et tout. Est-ce que tu crois que nos musiciens se laissent gérer?
Non, les musiciens ne se laissent pas gérer. C'est pour ça que je suis triste que des personnes comme Fally ou Poupa ou Ferré, qui sont arrivées avec les choses autrement, n'ont pas cassé un peu ce que leurs grands frères ont fait, le groupe Ouengue qui est venu se mettre évidemment là-dedans. Je me demande pourquoi eux n'ont pas cassé ça, parce que eux, ils auraient pu faire changer les choses et commencer à procéder autrement. D'autant plus qu'ils fréquentent quand même les jeunes de Paris, les maîtres Gims, les Youssoupha et leur dire, bon, voilà, chez vous, ça fonctionne comme ça, on aimerait bien faire exactement la même chose chez nous. Moi, je suis toujours encore à ce jour choquée du fait que de cette Coupe du Monde qui s'était déroulée en Afrique du Sud, le Congo était absent, totalement absent. Ça doit nous interpeller. C'est quelque chose qui ne serait pas arrivé dans les années d'avant, mais que le Congo ne soit pas que le Congo soit absent sur une scène africaine pour une telle occasion. Posons-nous les bonnes questions. Donc voilà. Donc maintenant, l'espoir. Est-ce que l'espoir n'est pas chez Fabregas non plus, puisque il est venu rentrer aussi l'entonnoir et voilà, il fait exactement la même chose. On devrait se sortir de là. Et pour se sortir de là, je sais pas, il faut demander aux médecins.
Gérard Nzali, Mamou International, Paulette Jacobs, merci d'avoir répondu à notre invitation et merci d'avoir répondu à nos questions.
Ça se fait plaisir.
Julie Moubenga, Tonton Mayala.
Tcho mbalo langu isinga ye, na bolingo na ya butu he. Bolingo etonda afetso boye na luna zwate, uta na bota mana libumu ya mama ye.
Tonino Fernando.
Na bosa na kombo ya chacho mbala na monoko, na koma kopenga ye shikwe twa. Na noto na lota kiwa kula kisa na elimu ya shikwe twa. Na yebite so kibikolo misatwe, sanza misato topembula misato. Obandeko,
joli mwadi.
Na keiko tuna oje pepla sida soso la mwani kamboe. Alopina kota reteta mikolo misate. Zambala kisangati na ya elimbo yango. Na keiko tuna nfose mavwela soso la mwani kamboe. Alopina kota reteta mikolo misate. Zambala kisangati na ya elimbo yango. Loyon pona moni mona yo ikolomisa topolia te komelate epesina pasina estoma sukana mona dokotolo ya solo dokotolo kusini sapasa estoma kasi ya motema te na mesa l'hopitalo visite nanga kaka elili na yo chacho mbala.
Chimpi, la Saoudienne, Badibé, Fulampung, Izemate.
Na keiko tunariki madanga soso la mwani kamwe. Alobina kota reteta mikolo misatwe. kisanganti na ya elembo yango na keiko tuna oje peplasida soso na mwali kamboe alobi na kota retreta mikolo misatwe lamba la kisanganti na ya likambo yango retrete na kanaka kokota tene loyo mpona molingo na yo Nikolo misa tokolia te komela te Epesi na pasi na estoma Suka na mona dokotolo Ya solo dokotolo akosili sa pasi ya estoma Kasi ya motema te Nambetwa l'opitalo vizite na ngakaka Elili na yo chato malaye
Benz Petrol Le cadet de l'Okejazz, savant de la RDC. Godé Apula, maman à bébé l'or. Christelle ma Priscilla, Banama Passa. Matana la rota
Sima o pesinga mbote ya loko kuchacho Ese na yo ya mono kubombeli na limbada Bona ni versa na yo kosu etenga Olo vya salilo bateo na ya miseta nina na susi
Chacho sende la mana mindana Asala na operasyo mi bale Soya bolingo na yo chachombala Operasyo ya mi bale memoire ya ko comprendre yo Soki minanga ba boy batianga sondea Ba mouvezo nanzo tonangai Marie Pauline Tupa
Mataba. 02 732 0450, c'est notre numéro de téléphone. Nous allons recevoir notre invité par téléphone.
Bitungimbi, le grand japonais de Bruxelles.
Avec nous par téléphone, monsieur. Kassasabo Kombe, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir Papa Jules, bonsoir.
Si vous êtes avec nous par téléphone, c'est parce que vous organisez une conférence qui sera centrée sur l'économie. De quoi s'agit-il exactement?
En fait, c'est plutôt une rencontre économique des Congolais, organisée dans le cadre du REXICO, qui est le réseau économico-financier congolais que nous avons créé au mois d'août dernier.
Et donc, oui, je vous écoute, oui.
Oui, donc il s'agit d'une rencontre autour d'un projet qui émane d'une ambition, et cette ambition a voulu tout simplement placer, a cherché tout simplement à placer l'homme congolais et la femme congolaise à la hauteur de ce que nous devons attendre du Congo et du Congolais, compte tenu de toutes les potentialités qui sont reconnues à ce pays.
Et comment ça va se dérouler?
En fait, on va commencer par faire une présentation du REC FICO, et ensuite nous allons passer dans un deuxième temps à expliquer le projet, l'idée que nous avons de créer une société anonyme qui servirait de centrale d'achat, mais dont le capital sera composé entièrement des fonds congolais.
Oui.
Donc on va proposer à ceux qui seront aux participants de faire dans un premier temps une promesse de participation au capital, et ensuite il y aura une préparation sur plus ou moins 6 mois maximum avec les gens qui auront accepté de prendre part à ce capital de départ.
Et comment faire pour prendre part à ces capitales de départ? Comment faire pour participer à cette conférence?
Ben, pour participer, l'entrée est libre. Donc il n'y a pas de formalité. L'entrée est libre, mais nous reconnaissons que le nombre de places est très limité. Bon, on s'est dit pour une première fois, on va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, l'entrée est libre. Évidemment, nous insistons sur la notion de temps, parce que la rencontre aura lieu de 15h à 18h. En tout cas, nous allons respecter le temps. Même si on commençait en retard, à 18h, nous devons impérativement arrêter.
Et ça va se passer, l'adresse, où va se passer la
conférence? À l'hôtel Eurostar Montgomery. Donc pour les Bruxellois, c'est assez facile, c'est juste au rond-point Montgomery, hein, avenue de Tervuren. Je n'ai pas le numéro en tête, mais c'est au rond-point, au niveau du rond-point, il n'y a que cet hôtel-là qui s'y trouve.
Y a-t-il un numéro de contact où on peut vous contacter?
Oui, on peut me contacter au 00352, c'est un numéro luxembourgeois, donc 00352. 621-542-583.
Le mot de la fin pour nous quitter?
Ben, je demande tout simplement à nos compatriotes de venir nombreux, parce que on a besoin de s'unir pour être fort, et l'organisation de la vie économique n'est pas aussi simple que cela. Donc on aura besoin de plusieurs professionnels, hein, que ce soit des avocats, des commerçants, des peintres, des coiffeurs, des ingénieurs. On a besoin de tout le monde pour pouvoir nous lancer dans cette aventure.
Monsieur Kassas Bokombe, merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous et à très bientôt.
Benz Petrol, le cadet de l'Okejaz, savant de la RDC. Godé Mpula, maman na bébé l'or, Christelle na Priscilla, nana ma passa.
Lo ngalo poco no ya.
Sultana Narota.
FM, Radio Panique, émission Comona Bissau. Dans quelques minutes, fin de Comona Bissau. Un grand coucou à Omer. Le coordonnateur de la Beko, l'axe belgo-congolais.
Soki minga kaba boy batanga sonea ba mauvaise nanzo tonanga e mari polime tupa
ikamwe kalinga li susu pasi chazumala nana lopita lani kasema mapetuki oye linga pololo na loko kono ya mosi loko kono mobalo tike li susu na nishiri
BDG Paul Makela.
N'oubliez pas demain à partir de 13h jusqu'à 20h à l'hôpital Erasme Foutensal. Championnat de Foutensal congolais. Demain à partir de 13h jusqu'à 20h à l'hôpital Erasme.
José Massaba.
Quand j'ai dit à l'hôpital Erasme, c'est dans les environs. Lui, c'est monsieur exotique du Nord, René Mikobi.
Photo, l'image. Micro autorisé, Rouf Moutam.
105.4 FM, Radio Panique.
Balaseka, Barbara Kanam.
Elle, c'est Barbara Kanam et Bana Sekata. Fouyebi. C'est le titre de la chanson. L'album Zawadi. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain à partir de 20h.